It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Aglété de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode un peu exceptionnel, certes lié à une production journalistique d'un média indépendant du Sud-Ouest, comme nous le faisons presque tous les jours, mais en l'occurrence, c'est à une série diffusée sur Podcasting que nous nous intéressons. Bonjour Maria Diaz-Valderrama.
Bonjour Jean.
Cette série, Maria, c'est la vôtre, celle que vous avez construite avec les équipes de Podcasting. Elle vient d'être diffusée. Elle s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. En 8 volets, elle retrace l'histoire des républicains espagnols dans la région. Nous conseillons évidemment à nos auditrices et à nos auditeurs d'aller écouter cette série avant d'écouter le présent épisode. Maria, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de Podcasting qui vous ont découverte avec cette série ?
Oui, alors je suis une journaliste espagnole basée à Bordeaux depuis quelques mois. J'ai habité à Paris 8 ans avant de venir ici. Et là-bas, j'avais travaillé comme correspondant pour les journaux El Mundo, aussi avec la rédaction hispanophone de RFI et d'autres. Et puis, j'ai travaillé longtemps dans les bureaux parisiens de l'agence EFE, qui est l'agence espagnole de presse. Et donc aujourd'hui à Bordeaux, je travaille plus dans des projets un peu à plus long terme. Je fais notamment un documentaire sur l'écrivain Agustín Gómez Arcos qui a fait la plupart de sa carrière en France. Et je collabore ponctuellement avec des médias comme El País ou Vanity Fair et d'autres.
Alors, la guerre civile espagnole est un thème qui a été très régulièrement abordé dans Podcasting. Le tout premier épisode était consacré à la création de la base sous-marine par les Républicains et puis bien d'autres ont suivi. Il nous tenait à cœur de prendre un peu de recul et surtout d'évoquer en longueur cette présence et cette influence des Républicains dans le Sud-Ouest. Qu'est-ce qui vous, Maria, vous a intéressé dans ce sujet ?
Alors, je commençais à travailler sur la question des Républicains exilés en France en 2014, quand je suis arrivée à Paris, notamment avec des sujets liés à la Nueve, les bataillons espagnols qui a participé à la libération de Paris. Mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressée parce que, de un, ça fait partie de l'histoire récente de mon pays. C'est une partie de l'histoire qui, en plus, a marqué énormément la génération de mes grands-parents, de mes parents, et pourtant la mienne. Parce que même si l'Espagne, c'est aujourd'hui évidemment un pays démocratique et avec des institutions parlementaires fortes, il y a forcément des traces de la guerre et surtout de la dictature franquiste. Donc ce sont des choses que parfois on a du mal à voir quand on est dedans, mais qu'au moment de prendre un peu de recul, on comprend qu'il y a un héritage toujours présent. D'autant plus que c'est une blessure pas tout à fait fermée dans la société espagnole. Quand tu m'as proposé ces sujets, quand je suis arrivée à Bordeaux, je me suis dit que c'était très intéressant d'aborder aussi cette nouvelle ville par les traces que mes compatriotes ont pu laisser dans la région. Et c'est vrai aussi qu'avec la figure d'Agustín Gómez Arcos, dont j'ai pas mal étudié ces dernières années, j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus à l'histoire de la dictature, mais aussi à des débats sur la mémoire historique en Espagne qui m'intéressaient déjà avant. Mais disons que j'ai vu cela comme une continuation dans ce travail de réparation pour mon pays et notamment pour les personnes qui ont subi les conséquences dramatiques de la guerre civile et de la dictature. Parce que avoir une dictature si répressive pendant 40 ans, c'est une tragédie pour un pays, même pour ceux qui considèrent qu'ils ne l'ont pas subi directement. Et puis évidemment, c'est une opportunité unique de conserver la parole des personnes qui sont déjà âgées. Donc, d'une certaine façon, les derniers témoignages vivants qu'on peut trouver, de les écouter, ce n'est pas pareil que de les lire sur un document ou un article.
Dime dónde vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena, a las 3 de la mañana, voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil.
Alors cette série, je l'ai dit, ça faisait très longtemps qu'on y pensait chez Podcastine, plus de 2 ans. Elle est la plus longue jamais produite par Podcastine. Comment construit-on un tel travail? 8 épisodes, près de 4 heures d'écoute dans la version finale. Comment avez-vous travaillé en amont des enregistrements, Maria?
J'ai fait des interviews assez longues, même si on écoute parfois des extraits de quelques minutes. Pour la plupart, les interviews ont pris 1 heure ou 2, voire une journée entière de reportage. Mais en fait, je voulais laisser le temps aux intervenants pour s'exprimer. Et là, je parle notamment des descendants de réfugiés ou de réfugiés eux-mêmes, car finalement, ce sont des souvenirs personnels, parfois douloureux. Et donc, pour moi, c'était important que tous les interviewés se sentent à l'aise pour que les souvenirs émergent ou pour essayer de pousser des réflexions personnelles qu'ils n'avaient peut-être pas extériorisées avant.
Très bien. On va dire d'ailleurs un mot de l'équipe qui travaillait avec vous autour de cette série, même si bien évidemment c'est à vous qu'on en doit la réalisation principale, mais il y a le réalisateur Olivier Duval, il y a aussi Gabriel Taïeb, Agathe Hernier, et il y a également Sophie Larré, qui ont notamment enregistré certaines des traductions, et puis une très jolie production également du côté des images qui sont celles d'Emma Gillet d'Atelier Bleu Corail, et qui, je pense, font aussi beaucoup dans l'ambiance générale de cette série. Maria, comment vous avez choisi les intervenants? Vous venez de les évoquer, mais comment vous avez choisi les intervenants de vos épisodes?
Alors, au début, j'ai commencé par faire des recherches. Donc, j'ai lu des livres, je consultais des documents et j'ai parlé avec quelques associations de descendants. Et quand j'ai eu une idée de ce que je voulais raconter ou que je pouvais raconter, en sachant qu'il n'y a plus vraiment de témoignages directs, puisque des combattants résistants, etc., ils sont déjà morts. J'ai fait une sorte de pré-scénario pour essayer de visser des intervenants qui pourraient parler des différents aspects. Parce que l'idée, comme tu le sais bien, c'était de raconter des histoires personnelles, des parcours de vie exceptionnels, mais aussi de construire une histoire collective, une sorte de mémoire, même si, comme j'ai dit dans l'épisode 5, il n'y a pas de mémoire unique et il y a une sorte de profil typé sur l'exilé républicain qui est réel, mais qui ne montre pas la complexité et la variété des différents exilés, évidemment, parce qu'on parle des centaines, des milliers de personnes.
Alors, on va parler maintenant de la réalisation elle-même des épisodes, parce que, évidemment, Podcastine est aussi là pour essayer de comprendre la fabrication du journalisme. Il y a des musiques, il y a des archives, il y a des interventions de plusieurs personnes, parfois des traductions. Combien de temps tout ce travail vous a-t-il pris, Maria?
Alors, j'ai fait d'autres travaux en parallèle de ces podcasts, mais en tout, j'ai commencé à travailler en février, donc environ 3 mois, un peu plus, je dirais. Après, je devais m'adapter aux besoins des intervenants, parfois avec des déplacements qui prenaient un peu plus de temps, voilà. Donc, il faut avoir ça en compte, mais la partie montage, ça a été un peu plus long aussi avec les transcriptions, écoute. Voilà, c'était un peu long, quelques mois.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre série?
J'aimerais qu'on retienne surtout un témoignage vivant de cette partie de l'histoire de l'Espagne et de la région d'Aquitaine, et de la France d'ailleurs. Je pense qu'on comprend mieux quand on a l'opportunité d'humaniser les histoires ou d'humaniser l'histoire. On assiste depuis des années à ces tragédies migratoires en permanence, comme celle des centaines de personnes disparues dans la Méditerranée la semaine dernière, une situation qui est, c'est évident, la politique nationale et européenne n'a pas réussi à apporter des solutions. Et quand on entend dans les médias que des centaines de personnes meurent sur nos côtes, on s'habitue et on oublie les histoires, on oublie les personnes qui sont derrière ces chiffres. Donc je crois que cela nous permet peut-être de réfléchir aussi aux tragédies actuelles et à comment on pourrait faire autrement. Et puis, d'un point de vue plus politique, dans un contexte de démagogie, de montée des populismes, des montées de l'extrême droite, des manques de respect aux institutions démocratiques, c'est évidemment aussi de se rappeler de l'importance de la démocratie est essentielle. Enfin, c'est essentiel de défendre des systèmes qui doivent toujours être améliorés, mais pas remis en question.
rumba la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
¿Qué es que vous, Maria, vous avez appris en réalisant cette série?
J'ai appris tout ça aussi, tout ce que je viens de vous dire. Moi-même, j'ai beaucoup réfléchi sur cela ces derniers mois et j'ai eu le temps aussi de réfléchir au déracinement. Peut-être en tant que migrant moi-même dans un autre pays, je suis empathique par cette sorte de nostalgie d'une terre perdue. Je ne compare pas évidemment, hein, car je suis arrivée en France pour fuir un peu la crise économique qui frappait mon pays. Mais ce n'est pas du tout une guerre, ce n'est pas du tout une dictature, ce n'est pas du tout comparable. Mais c'est vrai qu'il y a cette nostalgie, cette sensation d'avoir du mal à retrouver sa place parfois, qui a pu créer de l'empathie ou de la compréhension avec ses parcours de s'exiler. Ce n'est pas forcément triste, mais je me suis intéressée d'ailleurs davantage dans des parcours politiques ou intellectuels des exilés qui n'ont pas pu rentrer ou que quand ils sont rentrés en Espagne, on ne voulait pas non plus de leur vécu. Puisqu'ils ne comprenaient pas non plus l'Espagne des années 70, des années 80. Ils ne partageaient pas les principes de la transition. Donc cette espèce de rêve républicain d'une Espagne que finalement a duré 5 ans est devenue un paradis perdu pour beaucoup de personnes et une sorte de terre d'exil en soi. Mais son héritage culturel et politique est très important et c'est bien aussi de l'avoir en compte.
Un tout dernier mot un peu plus personnel, Maria. Vous êtes andalouse. L'Andalousie a été une région particulièrement meurtrie par la terreur blanche, hein, les exactions franquistes. Plus globalement, cette histoire a profondément marqué votre pays, l'Espagne. Est-ce qu'il y a pour vous un sentiment, peut-être de fierté, à l'idée d'avoir réalisé ce travail de mémoire ?
Je ne sais pas si fierté est les mots, peut-être. Mais en tout cas, ça me fait plaisir en tant que journaliste de participer à la récupération de la parole de ces personnes, de cette partie de l'histoire. Et il y a peut-être une sorte de mission de réparation de ma part, là en tant que citoyen espagnol, car je crois au dialogue, je crois à la possibilité de guérir les traumatismes collectifs par la parole et la compréhension de l'autre. Et c'est évident qu'il y a trop de ces faits négatifs dans la société espagnole, dû à la façon comment on a essayé de tourner cette page de l'histoire. Cela ne veut pas dire que la transition était un échec total. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça, au moins. Mais je viens pas du tout d'une famille dévaincue, comme on dit. Et j'ai bien vu toute ma vie la gêne que crée parler de la guerre, de ce que les familles ont pu faire ou ne pas faire, de la dictature qui a servi à lobotomiser les cerveaux de la plus petite enfance. Et puisqu'on n'a pas condamné de façon unanime cet épisode, on n'a pas su comment apprendre aux nouvelles générations l'histoire. Et j'ai eu pas mal d'amis de mon âge qui ont écouté les podcasts et qui m'ont dit « je ne connaissais pas du tout tout ça ». Donc aujourd'hui, on voit que sur des plateformes comme TikTok et d'autres, les propos de l'extrême droite, qui d'ailleurs risquent d'entrer au gouvernement le mois prochain, se répandent sans souci parmi les plus jeunes. Qu'il y a un blanchissement total de la dictature, de ce que les fascismes représentent. Et donc, les problèmes aujourd'hui, c'est que tant qu'on continue à agiter des drapeaux politiques, surtout dans un contexte de polarisation de la société, comme on voit en Espagne, mais aussi partout en Europe, les blessures qui n'ont pas été bien traitées ressurgissent. Et pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a cette sorte de nostalgie aussi de la dictature, justement parce qu'on n'a pas bien fermé ces chapitres. Depuis les années 2000, quand les réclamations de réparation pour les familles des républicains ou représaliées par les franquismes ont commencé, on entend constamment de la part de la droite politique qu'ils cherchent la vengeance. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu avec les personnes que j'ai parlé. Mais en échange, j'ai senti qu'ils étaient très contents du fait de voir une jeune Espagnole s'intéresser à leur histoire et à ce que ces familles ont subi. Ce sont des histoires humaines qui nous permettent peut-être de réfléchir deux fois quand on entend certains discours.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán.
Il y a une petite anecdote que j'aimerais bien partager avec vous tous pour finir, si vous voulez. Donc, Ronda, ma ville, dont je suis une grande ambassadrice, car j'adore, a tombé rapidement dans les mains des défenseurs du coup d'État du 36, donc des franquistes. Et il y a eu 800 personnes assassinées, des personnes de gauche, enfin, des personnes de la République, des responsables de la mairie, etc., qui ont été jetées dans une fosse commune du cimetière. Eh bien, en 2015 ou 2016, je ne sais plus, il y a eu des réunions dans ma ville parmi les gouvernements de gauche qui étaient à la mairie, ainsi que des archéologues et des descendants de ces 800 personnes assassinées, pour les travaux de réouverture de la fosse. Bon, quelques temps après, les élections ont donné les pouvoirs à la droite, et donc, encore, on a refermé les projets de l'ouverture de la fosse. La fosse est donc toujours fermée. Bon, bah, il y a deux mois, je suis allée voir et il y a quand même une petite plaque devant les cimetières qui dit « lieu des mémoires historiques », etc. Bon, l'affiche a été vandalisée. Et mon père me disait que le mois d'avril, donc il y a deux mois, il est allé au cimetière et il avait croisé une ancienne voisine qui était venue se réfugier devant la tombe de son père qui venait de décéder récemment. Il avait travaillé toute sa vie comme fonctionnaire à la mairie. Et cette dame dit à mon père, « Regarde Vicente, ici, il y a mon père dans cette tombe ici. On l'a enterré à côté de ma mère. » Et là, derrière, dit-elle en signalant la fosse commune qui était derrière, pas très loin, « là, derrière, dans ces petits coins, il y a toujours mon grand-père, qui avait donc été fusillé. » Donc voilà, même dans une petite ville où on se connaît tous, on n'a pas été capable de comprendre la douleur de nos voisins et de laisser que nos propres voisins puissent enterrer leur famille d'une façon quand même un peu plus chrétienne ou un peu plus juste. On a manqué d'humanité dans cette histoire, ce qui évidemment fait que beaucoup de gens ont eu du mal à croire dans les institutions démocratiques ou à croire dans une véritable réconciliation où on leur a d'une certaine façon obligé à oublier. Et finalement, ce que j'ai essayé de faire avec ces podcasts, c'est rendre cette histoire un peu plus accessible et plus humaine.
Nous sommes en tout cas très heureux et très fiers de diffuser cette série, la vôtre, Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Et vraiment, merci Maria Diaz-Valderrama, parce que c'est une série que on est ravis de porter au nom de Podcasting. Et évidemment, on dédie cette série à la mémoire de tous les républicains qui ont été accueillis en Nouvelle-Aquitaine et en France de manière plus générale, et souvent d'ailleurs dans des conditions difficiles, comme vous le rappelez et comme on le comprend très bien dans votre série. Merci encore Maria Diaz Valderrama. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe Hernier et Gabriel Taïeb, illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.